Vous écoutez, on lit pour vous.
J'ai été confronté très jeune à la violence, surtout de la part de ma mère. Interview de Daniela Martins. Propos recueillis par Sarah Dubois, paru le 29 août 2025 dans le magazine Parents. Daniela Martins est autrice, créatrice de contenu et maman de 3 enfants. Dans son dernier ouvrage, « Une claque n'a jamais tué personne », édition Solar, elle raconte son histoire, marquée par les violences, l'abandon, la solitude, mais aussi par un long travail de reconstruction. Pour parents, elle revient sur ce parcours difficile. Pourquoi avoir écrit ce livre? Pour libérer la parole, pour inverser la honte. J'en avais assez de m'effondrer en larmes à chaque fois qu'on me posait une question sur mon enfance. Aujourd'hui, j'arrive à en parler avec plus de distance, car j'ai fait ce chemin de résilience. Je veux dire à toutes celles et ceux qui ont connu des enfances blessées, cabossées, vous n'êtes pas seuls. Et surtout, vous avez le droit de vous en sortir. Vous dites avoir grandi dans une bulle d'amour. À quel moment votre réalité bascule-t-elle? J'ai grandi entouré de beaucoup de tendresse et d'attention chez mes grands-parents maternels dans le nord du Portugal jusqu'à l'âge de 6 ans. Pour moi, ils étaient mes véritables parents. Ma grand-mère représentait tout, une figure maternelle, une confidente, une meilleure amie. J'étais comblé d'amour. Puis, brutalement, sans que je comprenne pourquoi, j'ai été arraché à ce cocon. Qu'avez-vous découvert en rejoignant vos parents biologiques? L'enfer, un monde étranger. C'était la première fois que je vivais avec eux, et en vérité, je ne les connaissais presque pas. Ma mère me disait souvent, presque comme une excuse, « Je t'ai eu trop jeune ». Quant à mon père, je le percevais comme un inconnu, un voisin à qui on dit bonjour par politesse. Je me suis retrouvé témoin de scènes d'une violence terrible entre eux. Dans leur monde, j'étais une pièce rapportée, une étrangère, quelque chose en trop. À quoi ressemblait votre quotidien derrière l'image lisse de la petite fille bien soignée? De l'extérieur, on voyait une enfant toujours bien habillée, bien coiffée. Mais cette image était trompeuse. J'ai été confronté très jeune à la violence, d'abord psychologique, puis physique, surtout de la part de ma mère. Les brosses à cheveux, par exemple, étaient cassées sur ma tête. À l'école, j'affichais un grand sourire, mais à la maison, je faisais semblant d'être malade, juste pour que ma mère me remarque, pour qu'elle s'intéresse à moi, me prenne dans ses bras. Le seul moment où j'avais droit à un geste tendre, à un câlin, c'était quand j'étais malade. C'était le seul moyen d'exister pour elle. Aviez-vous un refuge? Mon seul semblant d'échappatoire, c'était l'école. Mais cet équilibre s'est effondré quand on a déménagé au Luxembourg. Là-bas, je suis devenue la fille typée, entourée d'enfants blonds aux yeux clairs. J'étais différente, et cette différence est devenue une source de moquerie. À la violence domestique s'est ajouté le harcèlement scolaire. Une double peine. J'étais constamment en état de survie. Comme lorsqu'on est en train de se noyer, qu'on n'a plus pied dans une piscine, mais qu'on se bat juste assez pour garder la tête hors de l'eau. C'est une image forte, mais c'est exactement ce que je ressentais. Qu'est-ce qui a marqué un tournant dans votre adolescence? À mes 15 ans, j'ai été littéralement kidnappé par mes parents alors que j'avais été mis sous tutelle. J'ai eu le courage immense, malgré la peur, de porter plainte contre eux. Pendant de longues années, ils ont réussi à me cacher le dossier judiciaire. Mais récemment, j'ai enfin pu le récupérer. J'ai pu y lire noir sur blanc que j'étais en danger, que cela avait été reconnu par la justice. Ce document, c'était une forme de validation, une preuve que je n'avais pas exagéré ou mal interprété ce que j'avais vécu. Avez-vous renoué avec vos parents par la suite?
J'ai toujours maintenu un lien, surtout avec ma mère. C'est difficile à expliquer, mais malgré tout, je l'aimais. J'avais cet espoir qu'elle change un jour. Alors, j'ai accepté de revenir chez eux sous certaines conditions imposées par le jugement. Ma mère a tout nié, y compris les agissements de mon père. J'ai protégé ma mère jusqu'au bout. Je n'ai jamais parlé des violences qu'elle m'a fait subir, uniquement celles de mon père.
Avez-vous toujours voulu devenir mère?
Non, pas du tout. Pendant longtemps, j'ai cru que tous les enfants vivaient la même chose que moi, que les violences normales, universelles. Et je ne voulais surtout pas reproduire cette violence. J'en avais une peur panique. Pourtant, lorsque l'on a posé mon premier enfant sur moi, j'ai ressenti un déclic immédiat. J'ai su, au plus profond de moi, que jamais je ne pourrais lui faire du mal. C'était une évidence. Que diriez-vous à ceux qui ont peur de reproduire la violence subie?
Je leur dirais que non, on n'est pas condamné à répéter le schéma que l'on connaît. Ce n'est pas une fatalité, c'est un effort, un engagement quotidien. C'est difficile, bien sûr. Encore aujourd'hui, il m'arrive d'avoir l'impression d'être un volcan au bord de l'implosion. Mais il faut apprendre à se connaître, à maîtriser ses émotions. C'est un chemin long, mais c'est un chemin possible. C'était « J'ai été confronté très jeune à la violence, surtout de la part de ma mère ». Interview de Daniela Martins. Propos recueillis par Sarah Dubois, paru le 29 août 2025 dans le magazine Parents.
Décontaminer la science. Un texte de Marine Cornioux, paru le 21 août 2025 dans le magazine Québec Science. Plus de 3 millions d'articles sont publiés chaque année dans les revues scientifiques. Or, une véritable industrie d'articles frauduleux vient contaminer ce corpus de connaissances. Comment dépolluer la science? Vous avez peut-être déjà entendu cette injonction qui gangrène le monde de la recherche. Publier ou périr. Pour monter un laboratoire, obtenir du financement, attirer la main-d'œuvre étudiante, les scientifiques doivent publier le plus souvent possible leurs résultats de recherche dans les revues savantes. Plus ils ont d'articles acceptés dans des journaux prestigieux, plus ils sont reconnus par la communauté. Chaque jour, 15 000 nouveaux articles scientifiques sont ainsi publiés dans le monde. Ce partage des connaissances est à la base du fonctionnement de la science. Mais il a pris un tournant pervers. La pression à la publication est telle qu'elle pousse certains scientifiques peu scrupuleux à soumettre à la va-vite des études de mauvaise qualité, voire à plagier ou à falsifier des données. Résultat, le nombre d'articles rétractés, c'est-à-dire invalidés après leur publication en raison de fraude, d'inexactitude ou d'erreur, parfois de bonne foi, précisons-le, atteint des sommets. En 2023, plus de 10 000 articles ont ainsi été rayés de la littérature scientifique, non sans avoir été lus et cités par d'autres entre-temps, et non sans rester disponibles en ligne. Même si les articles frauduleux sont minoritaires, certains sont influents, et tous contribuent à discréditer la recherche et à donner des munitions au mouvement anti-science. Cette pollution a beau être dénoncée depuis des années, elle continue à prendre de l'ampleur. Ceci s'explique en partie par l'essor des sociétés spécialisées dans la fraude, dopées par l'intelligence artificielle. Appelées usines à articles, paper mills en anglais, elles vendent des articles de recherche complètement factices, mais clés en main. On paie pour y apposer son nom et ainsi allonger son curriculum vitae. La pratique est très populaire en Chine, en Russie, en Inde et en Iran, où les équipes sont particulièrement poussées à publier. La multiplication des revues dites « prédatrices » qui acceptent n'importe quelle étude moyennant des frais de publication contribue aussi à l'industrialisation du phénomène. Voyez plutôt, le nombre de journaux augmente sans cesse, plus de 5 % par année, bien plus vite que le nombre de scientifiques bénévoles qui évaluent les études, demandent des corrections et les valident, ce qu'on appelle la révision par les pairs. Ainsi, même les revues des plus grosses maisons d'édition, comme Elsevier, hébergent des centaines d'articles douteux. Mais la riposte s'organise. Si les rétractations sont de plus en plus nombreuses, c'est aussi parce que certains justiciers et justicières de la science se sont donné pour mission de traquer les données inventées, les images manipulées, les courbes dupliquées, les fausses références. Ces « détectives », entre guillemets, comme il et elle se désignent, passent au crible les articles déjà publiés, en particulier sur la plateforme PubPeer, qui cumule plus de 300 000 commentaires anonymes. En bref, c'est une révision par les pairs officieuse après l'acceptation de l'étude par la revue. Il y a un an, une cinquantaine de leaders du domaine se sont réunis à Paris lors d'un symposium intitulé « Décontamination de la littérature scientifique ». Cette rencontre a mené à la mise en ligne, en juin 2025, de 27 guides pratiques, la « Collection of Open Science Integrity Guides », pour aider les volontaires qui veulent évaluer la fiabilité des publications. On y apprend notamment à détecter les images dupliquées, à repérer les textes plagiés, à vérifier les calculs statistiques ou à signaler un problème d'éthique ou d'intégrité à un éditeur. Le but, que tous les scientifiques se sentent aptes à enquêter et à signaler les manquements. Cette initiative s'inscrit dans un mouvement plus large qui vise à repenser tout le système de publication savante, un marché annuel de plus de 30 milliards de dollars américains. En attendant, la vigilance des détectives est cruciale. Elle ne permet pas uniquement de faire la chasse aux articles problématiques. Elle aide à contextualiser la recherche et renoue avec le principe fondateur de la science, l'auto-correction. En effet, c'est en critiquant les résultats d'autres équipes et aussi en répliquant les expériences que les connaissances se corrigent et se consolident. Or, pour reprendre les mots du professeur spécialisé dans la détection automatique des fraudes, Guillaume Cabanac, cité dans CRNRS Le Journal, citation, « La science se construit telle le mur d'une maison avec des briques. L'usage d'éléments non fiables, voire pourris, et réutilisés par la communauté scientifique pourrait à terme menacer l'édifice. » Fin de citation. Les travaux de maçonnerie se font pressants. C'était « Décontaminer la science », un texte de Marine Corneau, paru le 21 août 2025 dans le magazine Québec Science.
Réflexion automnale sur l'image animée. Une chronique de Julie Vaillancourt parue le 22 septembre 2025 dans le magazine Fugue. J'ai toujours aimé réfléchir et théoriser le cinéma. C'est tellement plus que du simple divertissement. C'est une fenêtre ouverte sur le monde, nos sociétés, qui nous amène parfois à les repenser. Les films nous apprennent qui nous sommes, si l'on se donne la peine de les regarder, de les écouter. Longtemps, je me suis demandé si je n'étais pas devenue lesbienne par la faute du cinéma, ou plutôt grâce au cinéma. Scène 1. Légende d'automne. Comme tout le monde, lorsque j'étais jeune, à l'époque de Légende d'automne, 1994, j'avais une affiche de Brad Pitt dans ma chambre. Au contraire de tout le monde, quand je regardais son image, je ne ressentais rien. Il était beau, plutôt bon acteur. Puis, après. Scène 2. Dawson's Creek. Comme tous les ados de mon âge, ou presque, je regardais la série Dawson's Creek. Ce n'est rien contre l'acteur James Van Der Beek qui joue Dawson, un adolescent qui se passionne pour le cinéma, mais je ne le trouvais pas beau. En revanche, comme Dawson, j'avais le béguin pour Joey Potter, Kathy Holmes, The Girl Next Door, le garçon manqué. Si c'est ça, être un garçon manqué, j'aurais préféré en être. Enfin, comme Dawson, je voulais étudier le cinéma et être ami avec Joey, tourner des films avec elle, lui ressembler. Scène 3, Titanic. Comme tout le monde, en 1997, je suis allé au cinéma voir Titanic, le film à succès de James Cameron. Oui, Leonardo DiCaprio est beau et bon acteur, mais que dire de Kate Winslet? De cette scène où elle se dévait pour devenir le modèle nu, voire l'objet du regard de Léo? Non, sans une certaine honte, je n'avais pas osé avouer à quiconque que je regardais plus Kate que Léo, quoique la mise en scène dirigeait, forçait mon regard. Elle était nue, l'objet du regard, de désir, manifestement érotisé. Tout portait à la regarder, elle. Inconsciemment, ou par l'art conscient et calculé de la mise en scène, est-ce que le cinéma était en train d'orienter mes désirs? Scène 4. L'ange bleu, Morocco et Shanghai Express. Lors de mes études en cinéma, je suis tombé en amour avec Marlène Dietrich, L'Ange bleu, dans Morocco, 1930, Joseph von Sternberg. Elle se joue des codes genrés. Alors vêtue d'un pantalon et d'un chapeau, la chanteuse de cabaret Amy Joly, Dietrich, embrasse une autre femme. Waouh! En performance sur scène, le regard du spectateur renforce l'identification. Un peu comme Marilyn Monroe, les femmes veulent lui ressembler, les hommes veulent la baiser. Si Dietrich était la muse du réalisateur Joseph von Sternberg, ce dernier viendrait créer la star. La jeune Allemande sera vêtue pour attirer l'attention du public, exacerber la fascination. Sans compter la magie du cinéma, cette scène notoire de Shanghai Express, 1932, dans le train avec une lumière venue des cieux, éclairant le visage de Marlène, telle une icône à en faire rougir de jalousie la Vierge Marie. Scène 5. Prise multiple, théorisation diverse. Au fil du temps, j'ai compris que le regard au cinéma était une construction. Une construction qui passe par les codes cinématographiques, des codes régis et appliqués par ceux qui font le cinéma, le produisent, le financent. Ceux qui écrivent et réalisent les films, les hommes. Longtemps majoritaire, bien que ce soit appelé à changer dans le Québec récent, et on s'en félicite, le médium cinématographique, à l'image de la société dans laquelle il prend naissance, est un produit du patriarcat. Bref, le cinéma est une construction, majoritairement un produit du regard des hommes. C'est pour cette raison que, la plupart du temps, la femme se retrouve objet du désir, du regard de l'homme. Lors de mes études, je me souviens avoir étudié les théories de la réalisatrice britannique féministe Laura Mulvey à l'origine du concept du regard masculin, « male gaze ». À l'ère des bombardements socio-médiatiques et des notions de consentement, cette théorie du regard masculin vous semble peut-être flagrante. Certes, lors de sa publication en 1975 dans Screen, Visual Pleasure and Narrative Cinema sera un article fondateur des études féministes sur le cinéma. En se référant à l'idée freudienne du phallocentrisme, Mulvey donne maints exemples du cinéma classique hollywoodien, d'Hitchcock à von Sternberg, pour illustrer comment les composantes filmiques, images, personnages, histoires, dialogues, etc., sont construites sur l'inconscient de la société patriarcale. Ainsi, visionner un film reproduit inconsciemment, ou à peu près consciemment, les rôles sociaux hétéronormatifs typiques des hommes et des femmes, explique Mulvey. Regarder est généralement considéré comme un rôle masculin actif, alors que le rôle passif d'être regardé est immédiatement reçu comme une caractéristique féminine. Laura Mulvey soutient que les femmes dans le cinéma sont liées au désir et que les personnages féminins ont une apparence codée pour avoir un fort impact visuel et érotique. Le rôle premier de l'actrice féminine n'est pas censé représenter un personnage qui affecte directement l'issue d'une intrigue, bien que sa présence soit indispensable comme élément de spectacle dans les films narratifs classiques. Elle est insérée dans le film pour être objectivée sexuellement, pour figer le flux de l'action dans les moments de contemplation érotique. Si Laura Mulvey réalise des documentaires d'avant-garde venant contrer cette vision patriarcale de l'industrie hollywoodienne, comme nombre de films indépendants, aux antipodes des canons de l'industrie, leur diffusion sera toutefois limitée. Ainsi, vous n'avez probablement jamais vu Penthesilea, Queen of the Amazon, 1974, ou Frida Kahlo et Tina Modotti, 1983. Revenons à la théorie de Mulvey, selon laquelle les personnages féminins sont codés de façon érotique pour plaire, fasciner, susciter le désir chez l'homme et favoriser l'identification chez la femme. Dans mon cas, tous ces films vus avec des personnages féminins pour susciter le désir et la fascination n'auraient-ils pas participé inconsciemment à forcer mon lesbianisme? Scène 6. The L Word. Comme toutes les lesbiennes de mon âge, j'ai vu The L Word. J'ai été ravi de voir cette série à l'époque où trop peu de représentations lesbiennes au petit et grand écran étaient visibles. Des décennies plus tard, sans le recul nécessaire, il est facile de critiquer de telles représentations. Mais il n'en demeure pas moins qu'elles font partie d'un cheminement inévitable à toute minorité. Faire accepter des réalités marginales passe d'abord par les clichés. Ce n'est pas nouveau. C'est l'histoire des arts, des médias, des représentations sociales. Tout ça pour dire qu'en 2004, ma blonde et moi avons dévoré cette série. Voir à la télé des couples lesbiens, comme nous, même si elles étaient plus riches, plus belles et sous le soleil de Los Angeles, c'était nouveau et rafraîchissant. On avait l'impression d'exister. La télé venait légitimer notre existence. Scène 7. La vie d'Adèle. Près d'une décennie plus tard, en 2013, j'ai vu La vie d'Adèle. C'était lors d'une projection de presse. Dans la salle, quelques journalistes, une majorité d'hommes. J'ai trouvé que la scène d'amour faisait un peu trop pornographique, c'est-à-dire fantasme d'un réalisateur mâle hétéro, Abdelhakif Kechiche. Sinon, pour le reste du film, j'ai pleuré ma vie. Perso, ça n'allait pas avec ma blonde, j'avais ma boîte de Kleenex pas loin. Cinéma, cinéma, je veux mourir, viens dans mes bras. Je me suis dit, encore une fois, que le cinéma était là pour me réconforter, me répondre. Miroir, miroir, dis-moi. Scène 8. Les aventures de Chatran. Flashback. Terminons avec le premier film que j'ai vu au cinéma. J'avais 6 ans. Mes parents m'avaient emmené voir Les aventures de Chatran. 1986. Masanori Hata. Un film d'aventure japonais qui raconte l'histoire d'un chaton roux qui se retrouve abandonné, par accident, à la campagne. Il traverse régions et saisons, accompagné de son ami chien, et fait la rencontre de nombreuses espèces animales. J'étais en amour avec ce beau petit chaton roux. Je rêvais d'en avoir un. Mon souhait fut exaucé. Un an plus tard, j'en avais un identique. C'était Chatran. N'est-ce pas ce qu'on peut appeler la magie du cinéma? Sinon, en date d'aujourd'hui, j'ai encore un gros crush sur Cathy Holmes. C'était « Réflexion automnale sur l'image animée », une chronique de Julie Vaillancourt, parue le 22 septembre 2025 dans le magazine Fugue.
Bien vieillir chez soi. La RCG renforce son soutien aux aînés LGBTQ+. Un texte de Chantal Cyr paru le 28 août 2025 dans le magazine Fugue. Grâce au programme fédéral Bien vieillir chez soi, l'Association des aînés et retraités de la communauté gay, ARCG, intensifie son engagement auprès des membres les plus vulnérables de la communauté. Depuis près d'un quart de siècle, l'organisme célébrera son 25e anniversaire l'an prochain. L'ARCG œuvre à briser l'isolement et à favoriser l'inclusion des aînés gays ainsi que des personnes issues de la diversité sexuelle et de genre. Sa mission demeure inchangée. Offrir un environnement bienveillant où les aînés peuvent vieillir entourés, en sécurité et dans la dignité. Pour atteindre cet objectif, l'association s'appuie sur un solide réseau de bénévoles. Ceux-ci organisent régulièrement des activités sociales, culturelles et éducatives, le plus souvent gratuites, qui s'inscrivent dans les orientations du ministère de la Santé et des Services sociaux. Prévention et maintien de la santé mentale, maintien de la santé physique, participation sociale et empowerment, mais aussi réduction de la fracture numérique qui affecte encore trop d'aînés. Au-delà des rencontres et activités, l'ARCG déploie également des services concrets pour les personnes les plus isolées, en particulier celles à mobilité réduite ou vivant une grande sédentarité. Le programme « Bien vieillir chez soi » permet de financer des visites à domicile, des appels de courtoisie pour briser la solitude, un service de transport solidaire, la livraison de repas, ainsi qu'un accompagnement pour divers besoins logistiques. Autant d'initiatives qui redonnent souffle et continuité au lien social, souvent fragilisé par l'âge et l'isolement. Fondée à Montréal, l'ARCG est un organisme à but non lucratif qui, depuis ses débuts, place la solidarité au cœur de son action. En créant des espaces de rencontre et de soutien, l'association contribue à l'épanouissement personnel et collectif de ses membres tout en luttant contre l'exclusion sociale. Info, site web, arcgai.org. C'était « Bien vieillir chez soi ». L'ARCG renforce son soutien aux aînés LGBTQ+. Un texte de Chantal Cyr, paru le 28 août 2025 dans le magazine Fugue.